que je voudrais commencer ce soir effectivement par l'aspect philosophique du temps, avec cette question centrale qu'évoquait M. Chambrelan, c'est qu'est-ce que le temps ? Une question qui taraude les philosophes, et pas seulement les philosophes, depuis toujours. Quelle est sa nature ? De quoi est-il fait ? Est-ce que c'est un peu comme l'eau qui coule, le fleuve qui s'écoule, le sable dans le sablier, le fil qui se débobine ? En quelle matière est fait le temps ? Alors, il y a plusieurs points de vue pour répondre à cette question. Il y en a deux principaux que je vais vous présenter ce soir. Le point de vue qu'on appelle newtonien, parce que c'est le chef de file de cette façon de raisonner. Donc, dans ce point de vue newtonien, il existe un cadre d'espace et de temps dans lequel se déroule tout ce qui se passe autour de nous. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, et pendant ce temps-là, le temps se déroule. C'est vrai ici dans cette salle, c'est vrai à l'échelle de l'univers, avec des étoiles qui se forment, qui produisent leur énergie, qui finissent par s'éteindre, des planètes qui apparaissent, la vie qui surgit, qui se transforme et qui continue encore actuellement à évoluer sans cesse. Donc, dans ce point de vue newtonien, il y a une espèce de contenant qui est ce repère ici d'espace et de temps, et un contenu qui sont les choses et les êtres qui sont dans ce repère spatio-temporel, comme disent les physiciens. Alors pour Newton, les deux choses sont assez déconnectées, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir le contenant qui serait complètement vide, ou on pourrait imaginer aussi, par exemple, que le contenu se fiche complètement, il ne se passe plus rien. Et pour Newton, le temps continuera à tourner. Donc, deux choses qui sont bien disjointes, avec quand même pour Newton un point commun, c'est que les deux, le contenu et le contenant, sont des sens divines. Mais on peut prendre le point de vue de Newton par tous les sens, par tous les bouts, il ne permet pas du tout de répondre à la question initiale de quoi est fait le temps. Et c'est pour ça que j'aimerais vous amener vers un autre point de vue, qui a été pour la première fois énoncé par Aristote, vous voyez, c'est pas tout jeune, et c'est un point de vue qui est beaucoup moins intuitif que l'autre, parce que l'autre, il est confortable, hein. On est des espèces de locataires de l'espace-temps, voilà. L'espace-temps, il est là, puis nous, on existe là-dedans. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué dans ce second point de vue. Surtout que d'autres questions posées par les philosophes sont toujours sans réponse aussi. Qu'est-ce qu'il fait s'écouler ? Dans quoi s'écoule-t-il ? À quelle vitesse s'écoule-t-il ? Donc le second point de vue, pour vous y amener, on va imaginer que le monde est monde, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais une seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'être doté d'une pensée avancée, de conscience avancée. Alors nous sommes bien d'accord, les phénomènes se sont déroulés, tels qu'on les connaît depuis l'histoire de l'origine de l'univers. Il y a bien un ordre de succession. Hein, la pierre qui dévale la montagne ne va pas remonter toute seule, ça c'est vrai. Mais la question qu'on va se poser, est-ce que, dans cette configuration, est-ce que le temps existe ? Je veux dire par là, est-ce que, s'il n'y a personne pour penser la succession des événements en termes d'un temps qui s'écoule, est-ce que le temps existe ? Alors, Aristote répond que non. Il répond que s'il n'y a que des animaux, ils ne peuvent pas penser le temps. Alors, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'un animal peut penser le temps ? Il ressent les effets de ce qu'on appelle le temps, c'est certain. Il a faim, il s'ennuie, mais est-ce qu'il peut penser cela en termes d'un temps qui s'écoule ? La question est ouverte. Si on accepte de dire que l'animal, enfin la plupart des animaux, n'ont pas la capacité de penser le temps, alors on arrive à cette conclusion obligatoire, c'est que le temps est un concept, c'est que le temps n'a pas une existence en lui-même, il est uniquement un produit de l'esprit. Ça peut être un peu choquant. Hein. Alors, on peut essayer de s'imaginer pourquoi les hommes ont créé ce concept de temps. C'est pour répondre à une question, comme toutes les questions qui s'est posées. Et évidemment, la question c'est quand ? Quand est-ce qu'on va partir à la chasse ? Alors on peut imaginer que dans un premier stade, je dirais, de pensée primitive des premiers hommes, ça leur a permis de dire « je vais partir à la chasse après avoir mangé ». Donc, le temps permet d'ordonner les événements. Il y a l'instant présent, il y a ce qu'on fera plus tard, il y a ce qui s'est passé. Donc, la notion de quelque chose qui s'écoule avec un passé et un futur. Puis, dans l'Antiquité, on veut aller plus loin. Oui, on va partir à la chasse après avoir mangé, mais combien de temps après avoir mangé? 2 heures après avoir mangé. Donc, va apparaître la nécessité de mesurer le temps avec des cadrans solaires d'éclipsite, j'en parlerai tout à l'heure. Et ça, donc, c'est vraiment l'Antiquité. Un troisième stade conceptuel, c'est de définir le temps. Alors, tout à l'heure, je vous donnerai la définition du temps. Disons que celle qui est maintenant la définition officielle, c'est le temps, c'est ce que mesure l'horloge. Pourquoi ? Parce qu'on peut se mettre d'accord sur un temps qui sera commun. Quand on dit il est 8 heures, on écoute la radio le matin, il est 8 heures, ben il est 8 heures pour tous les Français. C'est plus commode que d'avoir chacun son propre temps. Et enfin, un quatrième niveau conceptuel qui est arrivé en fait à la fin du XVIIe siècle, c'est le temps mathématisé qu'on voit apparaître dans les équations de la physique, la fameuse variable t. Voilà. Le temps est un concept. Donc, si je résume, dans le point de vue newtonien, le temps préexiste. Il est là avant, créé par Dieu. Et dans ce temps se déroulent les phénomènes. Dans le point de vue du temps concept, ce sont les phénomènes qui existent, qui existent objectivement, et la pensée crée le temps, parce que c'est beaucoup plus commode pour décrire ce qui se passe autour de nous quand on a l'outil du temps. Est-ce que ça nous permet de répondre un peu mieux aux questions de tout à l'heure? Qu'est-ce que le temps? Alors, c'est plus une matière, c'est un concept. Comme, je ne sais pas moi, la beauté, la liberté. Qu'est-ce qu'il fait s'écouler? La réponse, c'est les phénomènes. Parce que s'il n'y a plus de phénomènes, s'il ne se passe plus rien, le temps n'a aucun intérêt. Dans quoi s'écoule-t-il? La question n'a plus de sens, puisque ce n'est pas une matière, c'est un concept. De même que cette question-là, qui disparaît elle aussi. Donc on est quand même mieux armé pour répondre à ces questions fondamentales et très dérangeantes. Alors, une objection m'a été faite une fois, on m'a dit, mais alors si c'est l'homme qui a créé le temps, ça veut dire qu'avant lui, il n'y avait pas le temps. Et encore moins à l'échelle de tout l'univers, de toute l'existence de l'univers. Alors la réponse à cette objection est très simple, c'est qu'on peut très bien, l'homme a très bien pu créer le temps et extrapoler ce temps à des périodes où l'homme n'existait pas encore et à des périodes où l'homme peut-être n'existera plus. Donc ça, ce n'est pas une grosse extrapolation. Voilà. Alors je voudrais essayer de vous convaincre que ce temps, effectivement, est plutôt un concept que quelque chose d'objectif en prenant 2 derniers exemples et en vous demandant ce que vous voyez là. Vous répondez tous, une tache rouge. D'accord. Est-ce qu'on en est si sûr? Est-ce qu'un animal qui regarde ça voit une tache rouge? Alors vous me direz, déjà, si c'est un chien, il ne voit pas une tache rouge, puisqu'il voit en niveau de gris, comme la plupart des mammifères. Alors prenons un papillon qui, lui, discrimine extrêmement bien les couleurs, mieux que nous même. Est-ce que le papillon va dire c'est une tache rouge? Alors déjà, il ne va rien dire, puisqu'il n'a pas la... Il n'a pas la parole, mais est-ce qu'il va penser que c'est une tache rouge? On peut penser que non. Hein. Il n'est pas doté de la réflexion avancée qui lui dira « ça c'est rouge alors que cette autre fleur est, jaune ». Donc il va ressentir les effets électromagnétiques des ondes qu'il reçoit de la part de cette tache, qui va lui permettre de dire c'est cette fleur-là, c'est pas une autre, mais il ne va pas mettre... le mot rouge, il ne va même pas penser que c'est rouge. Donc rouge, ce n'est pas un fait objectif. Rouge, c'est un concept. Dernier argument avec lequel j'aimerais vous convaincre. Ben, si c'est un concept, on peut s'en passer. On peut s'en passer. Est-ce que c'est possible de se passer du temps? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Par exemple, si je ne veux pas dire que ma conférence va durer 50 minutes... Je peux dire, ma conférence va durer 1500 oscillations du pendule. Je remplace le mot temps par un fait. Et on peut faire ça, lisez les livres de Carlo Rovelli par exemple, il démontre ça très bien, on pourrait se passer complètement du concept de temps. Ce serait difficile parce qu'il est tellement commode, tellement ancré, mais on peut s'en passer. Et les ethnologues ont découvert, les ethnologues et les linguistes ont découvert des peuples qui n'ont pas le mot « temps » dans leur vocabulaire, comme par exemple les habitants des forêts de Bornéo. Donc voilà, le temps qui est pour moi, et pour certains physiciens, pas pour tous, qui est donc un concept et non pas une réalité objective. Alors comment se représenter ce temps? On l'a vu tout à l'heure, c'est la fameuse flèche. Dans nos sociétés occidentales, en tout cas, c'est comme ça qu'on représente le temps à l'école, la variable temps, ça rappelle peut-être des mauvais souvenirs à certains. Alors tout de suite une question, est-ce qu'on peut remonter cette flèche, si on est là, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Alors pour les physiciens, je dirais pour la très grande majorité des physiciens, la réponse est non. Parce que si on peut revenir en arrière, on va pouvoir déroger à la causalité. C'est ce fameux paradoxe, si je peux remonter le temps, je peux aller tuer mon père avant qu'il ne me procrée, donc je n'existe pas. D'accord? Donc pour le physicien, il y a la flèche du temps, ça veut dire qu'il se déroule dans un seul sens. Mais il y a d'autres façons de se représenter le temps. Si on prend la religion hindoue, on sait qu'il y a la réincarnation, le temps, il y a une autre vie après la mort, ça se répète. Donc le temps serait plutôt représenté comme ceci. Avec le problème de la causalité. Donc ça, les physiciens n'aiment pas trop cette représentation. Une autre façon de se représenter le temps qui s'écoule, c'est celle-ci, que j'aime beaucoup, moi, c'est le temps des bifurcations. C'est-à-dire que voilà, le temps se déroule, et puis l'instant présent, c'est le gros point que vous voyez là, et à chaque instant, il y a plusieurs futurs possibles. Imaginez, par exemple, le résultat des mid-term aux États-Unis, Trump perd le Sénat, le lendemain, il ne se passe pas les mêmes choses que s'il garde le Sénat. Donc, à chaque instant, il y a plusieurs futurs possibles et il y en a un seul qui se réalise. Une autre façon, peut-être, qui plairait aux historiens, les historiens disent souvent l'histoire se répète, mais pas jamais tout à fait pareillement, donc ce serait la spirale. C'est-à-dire que ça recommence, mais pas tout à fait de la même façon. Voilà. Et puis, peut-être, alors ça c'est un clin d'œil, c'est peut-être ça qui a inspiré la fameuse horloge de l'ORTF qu'on a connue autrefois. Bon, ça c'est petite remarque en passe. Voilà. Alors, je vous propose de faire une petite pause dans mon intervention et puis de débattre un petit peu pour que chacun d'entre vous puisse faire ses remarques, ses observations, donner son point de vue. Voilà, un échange. Je crois à ce moment, ce serait le bienvenu. Il y a un micro qui peut circuler. Quelqu'un veut intervenir ? On a quelqu'un.
Bonsoir, monsieur. Merci. Il y a tout de même des horloges naturelles, la succession des jours et des nuits, la révolution de la Terre autour du Soleil, donc la succession des saisons. La révolution de la Lune aussi. Donc ce sont des horloges naturelles. Et ces horloges-là, de toute façon, les hommes, peut-être même la vie, les enregistrent comme instruments de référence et de repère. Par ailleurs, dans la notion de temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion, comme dans l'espace, une notion d'horizon, c'est-à-dire d'horizon de connaissance? Au-delà d'un horizon, on le sait ou on ne sait pas. Par exemple, nos deux horizons, nous tous, c'est notre naissance et notre mort. Donc finalement, le temps nous concerne. Après, effectivement, comme vous le dites, c'est un peu une impression aussi, une suggestion.
Sur la première partie de votre intervention, loin de moi l'idée de réfuter l'existence de ce qu'on appelle des horloges naturelles. Bien évidemment, les phénomènes existent. La rotation de la Terre, elle existe. Mais c'est d'interpréter ça en termes d'un temps qui s'écoule, que je dis que là, il y a l'intervention de l'esprit humain. Voilà. Mais les phénomènes, eux, bien sûr, ils sont absolument objectifs et intangibles. d'autres interventions? Non, peut-être à la fin alors. Faut que ça mûrisse peut-être. Alors, on va parler un petit peu du temps biologique et du temps ressenti. On sait très bien qu'on a en nous des sortes d'horloges qui fonctionnent. Ça nous est tous arrivé de nous réveiller la nuit, puis regarder le radio-réveil. Avant de le regarder, on se dit, tiens, il doit être 2h42. Et on regarde, ah ben, ça tombe pile. Hein. Puis des fois, ça tombe à côté. Voilà, on sait très bien aussi qu'on est perturbé par tout ce qui est décalage horaire, etc. Donc on sait bien qu'on a des horloges internes qui fonctionnent plus ou moins bien. Alors, je vous propose une petite expérience. Voilà comment ça va se passer. Vous allez compter les secondes mentalement. D'accord ? Vous commencerez à les compter quand je lèverai la main. Vous ferez défiler les secondes dans votre tête. Et quand vous serez arrivé à 20, vous levez la main. Ça veut dire que c'est terminé pour vous. Puis moi, je vais faire pareil, mais moi, je vais avoir l'objet. Voilà, je vous laisse d'abord vous entraîner quelques instants pour vous mettre dans le rythme des secondes qui défilent. Ah non, on triche pas, hein, j'en vois qui triche là. Allez, je vous laisse quelques instants pour vous caler sur les secondes qui défilent. Vous êtes prêts? Voilà. Donc ça veut dire que notre horloge interne n'est pas extrêmement précise. Voilà. Alors beaucoup d'expériences ont été faites, celle-ci c'est une petite expérience amusante, mais vous connaissez aussi certainement celle de Michel Siffre dans les années 60, qui est descendu dans des grottes où il était privé de la lumière naturelle, et il est en fait descendu 58 jours, il pensait être resté seulement 34. Ça veut dire que notre horloge interne a besoin d'être resynchronisée sur la lumière du jour, l'alternance des jours et des nuits. Alors, comment ça se passe, notre horloge interne? Je ne suis pas biologiste, donc je vais rester à un niveau relativement très simple, mais n'hésitez pas à fouiller le sujet, hein, y a des choses sur Internet très intéressantes. Donc, notre horloge interne, elle se trouve dans le cerveau, dans ce qu'on appelle la zone suprachiasmatique. Le chiasma, c'est le croisement des deux nerfs optiques. Hein, les nerfs optiques qui viennent des yeux et qui vont rejoindre le cerveau à l'arrière se croisent comme ça. Et juste au-dessus, il y a deux petites zones qui sont grosses comme des têtes d'épingle, et c'est là que ça se passe. Comment ça se passe? Là, donc dans c'est notre cerveau, il y a des neurones, et ces neurones portent des gènes, évidemment, et ces gènes produisent des protéines. Et les protéines produites par le neurone reviennent se fixer sur le gène. D'accord? Et quand elles viennent se fixer sur le gène, ça bloque la production. Puis la protéine se dégrade et la production reprend. Donc finalement, ça fait ça, production, arrêt de la production, reprise de la production. Et ça, ça fait une horloge. C'est comme ça que ça fonctionne. Et elle est calée à peu près sur 24 heures. Voilà. Mais vous avez bien compris que c'est au niveau du croisement des nerfs optiques que ça se passe. Donc ces neurones sont informés de la lumière du jour, ce qui permet de les resynchroniser en permanence. Privés de cette lumière du jour, l'horloge n'est pas fiable du tout. Et cette horloge interne, elle est très importante puisqu'elle régule nos rythmes biologiques comme, je ne sais pas, la pression artérielle, la température corporelle, enfin bon, des cycles de la journée, production d'hormones, etc. On ne peut pas parler du temps sans évoquer rapidement les effets psychologiques du temps, donc qui font que quand on s'ennuie, le temps passe moins vite, hein. J'espère que ce n'est pas le cas ce soir, et que plus on vieillit, plus ça passe vite. Peut-être vous serez d'accord avec moi pour certains, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je ressens à coup sûr. Une autre partie qui va être peut-être un petit peu plus technologique, j'espère qu'elle ne sera pas trop barbante, c'est le temps mesuré. Donc, on l'a dit tout à l'heure, depuis l'Antiquité, les hommes cherchent à mesurer le temps. Et pour mesurer le temps, il faut un phénomène répétitif de référence, c'est-à-dire quelque chose qui va se reproduire régulièrement. Donc, comme disait monsieur, le plus important pour nous, c'est la rotation terrestre. Et la rotation terrestre, comment savoir que la Terre a fait un tour? Alors déjà, vous savez très bien que dans l'Antiquité, on ne pensait pas que la Terre tournait, c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Alors, ça, c'est simplement une question de point de vue, ce n'est pas bien grave. Alors comment savoir que le Soleil a fait un tour? Eh bien, grâce à un simple piquet qui est planté dans le sol, qu'on appelle le gnomon, et quand l'ombre est la plus courte, c'est que le Soleil est au plus haut, et donc c'est midi, et un nouveau jour commence. Donc finalement, mesurer le temps, c'est compter le nombre de fois que le phénomène s'est reproduit. Hein, si je dis que c'est produit 3 jours, ça veut dire que le Soleil est passé 3 fois au zénith. Voilà. Hein, c'est comme quand on dit aux enfants, bah, c'est dans 3 dodo. Hein, voilà, c'est exactement ça. Problème, comment est-ce qu'on peut obtenir des heures à partir de ça? Si on s'amuse à prendre le gnomon et à découper le plan du cadran en secteurs égaux, hein, comme un gâteau, ça ne donne pas des heures égales. Parce qu'en fait, l'ombre ne se déplace pas à vitesse régulière. Donc ça, c'est un problème qui a été très important concernant les cadrans solaires. On verra qu'il a été résolu seulement au début du 2e millénaire. Et il y a une autre façon de faire pour subdiviser la journée en heures, c'est de prendre... Ah oui, des heures inégales, donc c'est ce que je vous disais. Donc l'alternative, c'est de prendre un phénomène plus court. Si je prends quelque chose qui se reproduit plus vite que la rotation terrestre, par exemple, si je prends ça... À condition que c'est la bonne longueur, la ficelle, je vais pouvoir mesurer les secondes. Hein? Donc on va être à la recherche de phénomènes qui sont plus courts que la rotation terrestre. Et ça va être tout ça pendant jusqu'à nos jours. C'est la recherche de phénomènes rapides. Et fiables, et stables. Alors, les hommes ont dressé des calendriers depuis l'Antiquité. La rotation terrestre, comme on vient de le dire, permettant de compter les jours... Comme disait monsieur, il avait vu la conférence avant, effectivement, le mois, c'est les phases de la Lune, le retour de la pleine Lune tous les 29 jours et demi, c'est le mois qu'on connaît, hein, à peu près 30 ou 31 jours. Pour l'année, c'est plus compliqué. Comment savoir qu'on a passé une année? On peut se baser sur des phénomènes naturels comme le retour des gelées, mais on sait très bien que c'est pas, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Les Égyptiens se calaient sur le retour de la crue du Nil, qui est lié à un phénomène naturel des pluies abondantes sur l'Atlas. Et donc, chaque année, il y avait comme ça ces inondations qui rendaient la plaine fertile. Ça se passait fin juillet. Mais ils savaient très bien qu'effectivement, les pluies pouvaient tomber un peu avant, un peu après. D'ailleurs, ils comptaient les jours. Ce n'était pas toujours le même nombre de jours. Des fois, il y avait 340 jours entre 2 crues du Nil. Des fois, il y en avait 370. Mais ils se sont aperçus que ça coïncidait, plus ou moins, avec un phénomène astronomique qui est le lever héliaque d'une étoile. Ça s'appelle Sotis, une étoile très brillante. Qu'est-ce que c'est le lever héliaque? C'est le jour de l'année où l'étoile, au petit matin, se lève en même temps que le soleil. Et ils ont fait confiance à ce phénomène-là et ils se sont aperçus que ce phénomène-là se répétait tous les 365 jours. Et ce sont donc les Égyptiens qui ont découvert la durée de l'année de cette façon-là. Alors... Le découpage des jours en heures, puis des heures en minutes. Pourquoi 24 heures? Pourquoi 60 minutes? Eh bien, on pense que ça vient du système de comptage des Sumériens, 4e millénaire avant Jésus-Christ, et ils comptaient comme ça, ils comptaient sur les phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 phalanges, comptage à base 12. Et comme j'ai 5 doigts, 5 fois 12, 60. Voilà, ça vient de là. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de compter les heures dans l'Antiquité? Eh bien, essentiellement au début pour des questions religieuses. Ça permettait de codifier les offices, d'avoir des interventions qui duraient un temps bien précis. Ensuite, pour des raisons d'échanges commerciaux, c'était plus facile de donner des heures précises de rendez-vous. Les minutes étaient utilisées, par exemple, pour contrôler le temps de parole des orateurs grecs, qui devaient parler le même temps, quel que soit leur rang social. Quant aux secondes, c'était pas grand public, les secondes, c'était pour les astronomes qui suivaient le mouvement des astres, qui les tabulaient, on a retrouvé des choses très anciennes, et donc qui avaient besoin de suivre à la seconde près le mouvement des astres. Tout à l'heure, on a dit que les cadrans solaires, c'était difficile de les partager en heures égales. Et donc voici la solution, c'est le cadran équatorial, le plus ancien qu'on ait découvert, c'est très récent, on l'a découvert en Algérie dans les années à peu près 1200. Qu'est-ce que c'est qu'un cadran équatorial? Vous voyez, il est penché, et en fait son style, c'est-à-dire l'axe du cadran, il est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Et ça, quand on a un cadran qui est comme ça, vous pouvez le partager du coup en secteurs égaux, et ça donnera des heures égales. Allez, on va faire un petit saut au XXe siècle, lorsqu'on aura construit des horloges très précises, horloges à quartz, vers les années 1940. On va pouvoir contrôler la rotation de la Terre. Est-ce que notre bonne vieille Terre tourne à vitesse constante? Alors, ce graphique qui fait un petit peu peur exprime, alors vous avez ici les années qui sont en bas, exprime pour chaque année l'écart entre la durée de la rotation terrestre et la durée donnée par une horloge très précise. Donc cet écart, il est très petit, c'est des millisecondes, mais cumulé sur plusieurs jours qui se suivent, ça peut finir par faire des durées assez longues. Alors pourquoi est-ce que la Terre tourne pas, elle tourne rond, mais enfin pourquoi elle tourne pas à vitesse constante? C'est à cause des frottements. On sait que les frottements, ça ralentit. Quand on fait du vélo, l'air nous ralentit, ça ralentit le mouvement. Eh bien, la Terre est soumise à des frottements qui sont des frottements internes, des frottements magmatiques à l'intérieur de la Terre, et aussi des frottements atmosphériques, les couches d'air qui se déplacent. Hein. Tout ça, ça fait des frottements qui ne sont pas toujours aussi intenses. Donc, ça fait des jours qui sont parfois un petit peu plus longs et des jours qui sont parfois un petit peu plus courts. Donc, on s'apercevra à ce moment-là qu'on ne peut pas faire confiance à notre Terre comme horloge de référence. Je reviens un petit peu dans l'Antiquité avec les clepsydres. Bon, vous connaissez ce système, hein, c'est une espèce de pot de fleurs avec un trou en bas, on met de l'eau et puis ça s'écoule. Et là, vous avez les graduations en heures qui sont équidistantes. Alors, les clepsydres étaient utilisés bien sûr parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir le soleil pour mesurer l'heure. Donc par exemple, pour les offices religieux la nuit, c'était très commode. Celle-ci, elle date de 1500 avant Jésus-Christ, c'est la plus ancienne qu'on connaisse, Karnak en Égypte. Alors pourquoi cette forme en tronc de cône? Bon, c'est facile à comprendre parce que si on prend un pot qui est tout droit, au début il y a plus d'eau, c'est plus lourd, donc ça coule plus vite. Puis à la fin il y a moins d'eau, ça coule moins vite, donc ça ne donnerait pas des heures régulières. Donc pour essayer d'avoir des heures régulières, on a donné cette fameuse forme de tronc de cône. Mais c'est une forme qui est empirique, et en fait ça ne donne quand même pas des heures tout à fait égales. Ceux qui vont réussir à faire des horloges à heures égales, ce sont les Grecs. Ici, on a l'horloge de Ctésibios, difficile à prononcer, 50 avant notre ère. Et n'oublions pas que les Grecs ont inventé les machina, les machines, ça vient du grec, donc tous les engrenages. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse dans cette horloge. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est le système qui est ici, dans le réservoir de gauche. C'est une soupape. Une soupape, c'est un flotteur. Et donc, dès que le niveau de l'eau baisse, le flotteur descend, ce qui laisse rentrer l'eau par en haut, ce qui refait remonter, évidemment, le flotteur, ce qui fait que le réservoir est tout le temps plein, quasiment plein. Et donc, le débit de l'eau ici est constant, et donc ça donnera des heures égales. Alors, quand vous êtes à Athènes et que vous montez vers le Parthénon, là, vous passez devant cette fameuse Tour des Vents, qui était une tour sur laquelle il y avait des girouettes et des cadrans solaires, et il y avait aussi à l'intérieur une grande clepsydre dont on voit le réservoir, c'est lui qui est ici, de forme cylindrique à l'extérieur du bâtiment. Allez, une petite curiosité qui était très utilisée dans les églises au premier millénaire, c'était les horloges à feu. Alors, pour rythmer les offices, eh bien, on utilisait des chandelles dans lesquelles on avait mis des clous. Et donc, quand le niveau de la cire diminuait, le clou tombait et ça marquait les heures. Alors, inutile de dire que ça ne donne pas des heures tout à fait égales parce qu'il n'y a aucune raison que la combustion soit régulière. Mais enfin, voilà. On arrive à la découverte géniale. Je vous l'ai déjà montré, hein, parce que ça, c'est un phénomène répétitif extraordinaire. C'est le balancier, ou on appelle ça aussi le pendule, découvert, vous le savez bien, par Galilée. Il a étudié beaucoup le mouvement du pendule, et c'est lui en particulier qui a découvert que vous pouvez attacher un poids de 1 kg ou un poids de 100 grammes, ça ne changera pas le temps d'oscillation. Donc on a un phénomène très intéressant, et Galilée a l'idée de réguler les horloges qui existent déjà, on va en voir quelques-unes, des horloges mécaniques, en couplant un balancier à l'horloge. Alors, je vous ai dit, les horloges existaient déjà depuis le XIVe siècle. La plus ancienne qu'on connaisse, c'est celle de Saint-Alban, en Angleterre, près de Londres. Donc, voici le mécanisme. Comment ça fonctionne, ces grosses choses-là? Vous avez peut-être vu celle du gros horloge, hein, ça ressemble beaucoup à ça. Vous avez un poids moteur, c'est-à-dire une corde au bout de laquelle il y a un poids qui est très lourd qui va faire fonctionner la machine, qui va donner l'énergie à la machine. Puis vous avez un dispositif qui s'appelle l'oscillateur, dont j'ai fait le schéma à côté. En fait, c'est une pièce qui oscille comme ceci. Et la partie verticale porte deux palettes qui sont à 90 degrés comme ça, et qui sont, alors voilà les palettes, elles sont là et là, et qui sont au contact de cette roue qui est la plus importante pièce de la machine, qu'on appelle la roue de rencontre. Et les palettes vont venir bloquer, débloquer, en oscillant comme ça, vont venir bloquer, débloquer cette fameuse roue de rencontre. Et donc, au lieu que la roue tourne de façon continue, entraînée par le gros poids, eh bien, la roue va tourner par à-coup. Toc, 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 toc. C'est le tic-tac de l'horloge. Ensuite, des engrenages. À quoi servent-ils, les engrenages? On sait très bien en faisant du vélo, hein, c'est-à-dire à tourner plus ou moins vite. Voilà, ça réduit la vitesse ou ça l'augmente, selon le nombre de dents. Et finalement, ça va aller au cadran. Et on peut voir ici le cadran. Vous reconnaissez bien sûr le gros horloge. Il y a une seule aiguille dans ces premières horloges, l'aiguille des heures. Il n'y a pas encore l'aiguille des minutes. Tout à l'heure, je vous ai dit que Galilée a eu l'idée de coupler un balancier à ses horloges. Pourquoi? Parce que ces horloges, elles marchaient très très mal, en fait. Elles pouvaient dériver de une heure ou deux par jour. Et Galilée dit, on va coupler un balancier, mais en fait, Galilée va mourir avant de pouvoir mettre son idée en application. Il transmet les plans à son fils, et ces plans sont repris par le Hollandais Christian Huygens. Et voici donc une horloge conçue par Huygens, qu'il fait réaliser par ce qu'on appelle des horlogers, des fabricants d'horloges. Et on voit donc de profil tous les engrenages ici, et là, le fameux poids, au bout de la tige, le fameux balancier qui est couplé par cette pièce-là, ici, au reste de l'horloge. Alors, la même chose de face, voilà, en bas, à droite, vous avez l'horloge vue de face avec son cadran, ici, le balancier qui est là, et les deux poids qui vont, en descendant, donner l'énergie à l'horloge. Voici une reconstitution de cette horloge, peut-être pas la toute première, mais enfin, une horloge de Huygens, et la vue de l'arrière avec ici le balancier qu'on voit. Dans les siècles qui suivent, on va améliorer encore la précision des horloges en réduisant les frictions. C'est-à-dire que dans une horloge, chaque fois que vous avez des pièces qui frottent les unes contre les autres, ce sont des pièces en métal, ça crée donc un ralentissement de l'horloge, une marche irrégulière. Donc on va faire en sorte que les pièces soient en contact le moins possible les unes avec les autres. Donc des dessins de plus en plus précis. Là, on a ici ce qu'on appelle un échappement à encre de Graham, qui est toujours utilisé de nos jours dans les montres mécaniques, dont le dessin des pièces est extrêmement précis. Et en plus, on va commencer à utiliser des machines-outils qui vont permettre de donner des pièces beaucoup mieux taillées que ce qu'on faisait à la main autrefois. On avance un petit peu. Donc, les horloges qui au départ étaient réservées à des gens très très riches et puis à des lieux prestigieux, vont commencer à se démocratiser avec les fameuses horloges comtoises. Pourquoi comtoises? Parce que fabriquées en Franche-Comté, ce qui est assez abusif parce qu'elles n'étaient pas fabriquées que là. Par exemple, en Normandie, elles étaient fabriquées, le centre de fabrication, c'était autour de Saint-Nicolas d'Aliermont. Et j'en profite pour vous inviter vivement à aller voir ce merveilleux musée de l'horlogerie, si ce n'est pas déjà fait, des choses vraiment splendides. Donc on devrait appeler ça plutôt des horloges de parquet. Une autre chose qui va arriver, alors là, fin 19e siècle, vous reconnaissez quelque chose qui est emblématique de notre mode de vie actuel, ça c'est la pointeuse. Hein. Maintenant, notre mode de vie, il est minuté, même minuté c'est pas suffisant, c'est à la seconde, voilà. Et donc la pointeuse qui serait l'emblème de ce temps tellement compté. Un petit mot sur les montres. Qu'est-ce que c'est une montre? C'est une horloge en miniature. Sauf que on peut pas avoir, pour faire mouvoir les mécanismes, on ne peut pas avoir un poids accroché à une ficelle. Alors, dès le Moyen-Âge, on trouve qu'un bon gros ressort enroulé en acier, quand il va se détendre, va être capable de donner l'énergie à tous les engrenages. Mais il faut aussi le réguler. Et pour réguler, on ne peut pas mettre un balancier dans la montre. Donc, c'est Huygens qui trouve la solution. On voit son manuscrit, il est très content, il a écrit Eureka. Et en fait, c'est ça le dispositif régulateur. C'est un ressort, mais alors là, un tout petit ressort, très fin, rien à voir avec le gros ressort de tout à l'heure, sur lequel il y a une barre d'inertie qui va osciller comme ça et qui va permettre à la montre de fonctionner avec une grande régularité. C'est toujours utilisé de nos jours. Voilà une montre moderne avec un ressort dont je vous parlais. Et maintenant, au lieu que ce soit une barre, c'est un volant d'inertie, c'est plus stable, mais le principe reste le même. Les montres, elles aussi, vont se démocratiser. Là, c'est une publicité pour les montres américaines à 1 $, avec, vous voyez ici, 1 million d'exemplaires vendus. Et petite chose qu'on peut remarquer au passage, c'est que c'était des montres portées au gousset, à l'époque. C'était comme ça qu'on portait les montres. Et la montre bracelet va être popularisée par l'aviateur Santos Dumont. Pour pouvoir piloter et en même temps regarder l'heure, il se fait faire une montre à bracelet par l'horloger Cartier à Paris. Et comme ça a été très médiatisé, ces exploits, eh bien, la montre bracelet a supplanté dans ces années-là, début du XXe siècle, donc a supplanté la montre gousset. Je vous ai dit tout à l'heure que les toutes premières horloges pouvaient se tromper de plusieurs heures par jour. Au XVIe siècle, les meilleures faisaient 10 minutes par jour. Au XVIIe siècle, 1 minute par jour d'erreur. XVIIIe. Et au début du XXe siècle, on a quand même des horloges qui sont capables d'être précises à 1 seconde par an. Alors évidemment, ce sont des horloges destinées à la mesure des physiciens. Ce sont des horloges qui sont, par exemple, protégées des courants d'air, parce que les courants d'air, évidemment, ça fait bouger le balancier, etc. Voilà, qui sont fabriquées avec une extrême précision. On ne met pas d'huile, parce que l'huile, ça attire la poussière, ça crée des frictions, etc. Mais ceci n'est pas suffisant pour les physiciens du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que avec ces horloges, on est capable, au mieux, de mesurer les secondes. Parce que c'est le temps d'un petit pendule comme ça. On ne peut pas mesurer le dixième de seconde, ou alors il faudrait que la ficelle soit très très courte, hein, ça irait pas. Donc, on va utiliser un autre phénomène vibratoire qui est le cristal de quartz. Donc, c'est un tout petit cristal de 2-3 cm de long qui vibre comme ça, excité par l'électricité. Donc ça, c'est dans les années 20 qu'on invente ça. Et il vibre plus de 30 000 fois par seconde. Ce qui veut dire qu'avec ce système-là, on peut mesurer des durées aussi brèves que le 300 millième de seconde. Ce qui va avoir des applications très importantes en physique, où on a besoin de mesurer des temps aussi courts. Et un deuxième avantage de la chose, c'est que lui, il est complètement insensible au courant d'air, il est pratiquement insensible à tout, le cristal de quartz. Donc on a des horloges qui vont être capables de ne se tromper que d'une seconde par siècle. La seule chose qui peut affecter le quartz, c'est la dilatation, c'est-à-dire quand il fait chaud, il s'allonge un peu, et donc du coup, la durée d'oscillation, elle augmente légèrement. Mais mesurer le 100 millième de seconde, ce n'est pas encore suffisant pour les physiciens, et ils vont, dans les années 50, inventer les horloges atomiques. Et là, le phénomène vibratoire n'est plus un phénomène mécanique, c'est compliqué, c'est à l'intérieur de l'atome, c'est une transition entre des niveaux d'énergie d'un atome de césium, vous me ferez grâce de la définition. Voici la première horloge atomique construite dans les années 50 par Essen et Paris en Angleterre. Et l'oscillation, elle dure le 10 milliardième de seconde. Donc, on va être capable de mesurer des temps aussi brefs que le 10 milliardième de seconde. En plus, c'est une horloge qui est à peu près insensible à tout. Elle n'est pas sensible à la dilatation, elle, par exemple. Et les meilleures horloges atomiques dont on dispose maintenant, elles ont une précision qui est de 1 seconde d'erreur sur 30 millions d'années. Donc si vous faites le calcul sur tout l'âge de l'univers, ça fait une erreur de 500 secondes, 8 minutes d'erreur sur tout l'âge de l'univers. Mais c'est une précision qui est diabolique. Voilà une horloge moderne. Alors vous me direz à quoi ça sert. Alors je vous ferai grâce des applications scientifiques. Je vais vous donner une application qui nous concerne tous, c'est le GPS. Comment ça fonctionne un GPS ? On s'en sert tout le temps, tous les jours, en voiture, en balade. Comment ça fonctionne ? Il faut 3 satellites et il faut votre téléphone, par exemple. Dans les 3 satellites et dans votre téléphone, il y a des horloges très précises. Votre téléphone capte des signaux qui viennent des satellites. Et ces signaux sont codés. Ce qui fait que votre téléphone sait à quelle heure est parti le signal de ce satellite. Il sait à quelle heure ça arrive, donc il fait une soustraction et il a le temps de parcours. Il fait ça pour les 3 satellites. Connaissant le temps de parcours, et comme c'est un petit malin, il multiplie ce temps de parcours par 300 000, qui est la vitesse de propagation des signaux. Et ça lui donne la distance en kilomètres à laquelle se trouve le satellite de lui. Et bien quand il a ces 3 distances, vous voyez, c'est l'intersection des 3 sphères qui sont ici, et bien c'est votre position. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que vous êtes localisé. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, parce que dans les satellites, ce sont des horloges atomiques qui sont embarquées, donc ultra précises, mais dans votre téléphone, ce n'est pas une horloge atomique, ce serait un peu gros et un peu cher, c'est une simple horloge à quartz. Et donc, il faut recouper les informations, et pour avoir une précision actuellement, on a une précision d'à peu près 10 mètres, il faut qu'il y ait 5 satellites au-dessus de vous pour vous donner une position à peu près correcte. Voilà. Donc ça, c'est le système GPS. On pourra parler, si vous voulez, dans les questions du système Galileo qui est en train de se mettre en place, qui est le système européen qui apportera une précision de à peu près 4 ou 5 mètres sur notre géolocalisation. Un petit mot des fuseaux horaires. Bon, la Terre tourne et le Soleil nous donne l'heure avec un cadran solaire. C'est comme ça que ça fonctionnait jusqu'au 19e siècle. Les horloges de la ville étaient calées sur le cadran solaire. L'heure solaire, c'était ce qu'il y avait de plus important. Problème, le Soleil ne passe pas au zénith au même endroit, par exemple, à l'est et à l'ouest de la France. Il y a un quart d'heure d'écart. Et ça a commencé à poser des problèmes sérieux avec les trains. Si, par exemple, on disait le train part à midi, alors d'accord, mais il part à midi, heure de Strasbourg ou heure de Bordeaux à l'arrivée. Donc, on a compris qu'il était nécessaire d'avoir la même heure sur toute la France. Et ça, c'était la même chose dans tous les pays. Donc, on a créé, en 1884, le système des fuseaux horaires. Donc, la France, nous, on a un seul fuseau, c'est l'heure, la même heure partout. Je peux vous dire que ça a été très mal accepté au début, hein, cette histoire d'imposer, les Français sont comme ça, hein, imposer la même heure partout sur toute la France, hein, il y a eu des réticences. Alors, si on regarde les fuseaux horaires, aux États-Unis, il y en a 4 pour le bloc central, plus un fuseau pour l'Alaska, plus un fuseau pour Hawaï. Voilà, ça fait 6 fuseaux. Mais petite curiosité, regardez en Chine. En Chine, il y a un seul fuseau. C'est la même heure partout. Hein, que vous soyez du côté de la Corée, là-bas, à l'est, ou du côté du Cachemire, à l'ouest, c'est la même heure. Ce qui fait un sacré écart par rapport à l'heure solaire. Hein, d'accord ? Mais bon, en Chine, je crois qu'on n'a pas trop la possibilité de contester des décisions comme ça. Alors, la définition officielle du temps, actuellement, dans le monde entier, eh bien, on prend, donc, le temps, c'est ce que donne l'horloge, et puis on ne s'embête pas, on prend les horloges les plus précises, donc c'est le temps donné par des horloges atomiques. En fait, il y a 500 horloges atomiques qui sont réparties dans tous les pays, qui envoient toute leur information à Paris, c'est centralisé à Paris, on fait une moyenne, et ça donne le TUC. Le temps universel coordonné, UTC en anglais, et c'est lui qui est après retransmis partout, aux stations de radio, quand vous écoutez le matin, les tops, voilà. C'est ce temps-là qui est le temps officiel. Cependant, notre Terre ne tourne pas tout à fait rond, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et donc ça finit par se décaler avec le TUC. Et comme on veut quand même rester calé sur notre bonne vieille Terre qui tourne, on est obligé de temps en temps de rajouter une seconde à la fin de l'année, ce qu'on appelle une seconde intercalaire. Donc depuis 1972, ça s'est fait 26 fois, et on rajoute une petite seconde à la fin de l'année. Problème, quand on fait ça, ça perturbe grandement les systèmes informatiques des grosses sociétés, il y a des bugs, etc. Donc on ne sait pas si ce système va perdurer. Voilà pour la définition officielle du temps. Et avant d'aborder le point suivant, je voudrais vous redonner la parole. Et si vous avez des choses à nous apporter sur... Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les horloges biologiques, le temps psychologique, et on a vu les horloges, la technologie des horloges. Donc, bien volontiers, je vous donne la parole.
Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, vous abordez pratiquement bientôt le sujet, c'est la notion aussi d'entropie, c'est-à-dire la notion de dégradation d'énergie et qui donne la flèche du temps, aussi pour certains physiciens, enfin dans la physique, il peut y avoir des temps négatifs, mais à des échelles très petites.
Alors, concernant l'entropie, bon, je ne vais pas rentrer trop dans la physique pointue, hein, mais effectivement, on peut très bien... utiliser cette grandeur entropie pour définir des horloges. Le problème de l'entropie, c'est que à chaque phénomène, l'entropie évolue différemment, donc c'est difficile d'avoir une seule horloge qui serait la même pour tout le monde. C'est le principal obstacle à définir une horloge basée sur l'entropie, mais effectivement, c'est tout à fait envisageable. Hein, et, voilà. Et puis, la deuxième question, pardon, j'ai oublié. Non, c'était tout. C'était sur le... D'autres interventions? Alors,
s'il n'y a personne qui fait une intervention,
s'il n'y a personne, bien sûr.
Je veux quand même poser une petite question.
Bien sûr.
On parle du temps, là, c'est clair. Et on parle en gros d'un oscillateur qui est de plus en plus rapide et on compte. On compte les oscillations. Comment on fait pour compter aussi vite?
Comment on fait pour compter aussi vite? Ah ben effectivement, il y a toute une électronique dans ces machines, hein, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les oscillations à la main. Bien sûr, il y a un comptage électronique qui est dans toutes les horloges atomiques et qui fait un énorme travail, bien sûr. Et ça pose un problème parce que les systèmes électroniques, eux, sont sensibles à la température. Et finalement, l'oscillateur central, lui, n'est pas sensible, mais... La chaîne de mesure, elle, est sensible et c'est ce qui fait principalement les erreurs commises par les horloges atomiques, effectivement. Bon, bah, le point suivant, c'est la révolution relativiste. Alors, comme vous le savez certainement, rien ne peut aller plus vite que la lumière, 300 000 km par seconde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de révolution relativiste ? Imaginons que vous êtes en voiture, vous roulez à 60 km par heure et malencontreusement, vous êtes heurté par un autre véhicule qui vient en face à 60 km par heure aussi. Eh bien, tout démontre, il n'y a aucune erreur là-dessus, que c'est comme si vous étiez arrêté et que vous étiez percuté par un véhicule à 120 km par heure. Ça, c'est sûr, on peut le vérifier tous les jours en faisant l'expérience. Les vitesses s'additionnent. Bon, ok. Mais si vous êtes dans votre voiture à 60 km par heure... et que vous êtes percuté par un rayon de lumière, s'il vous arrive en permanence, hein, eh bien, la vitesse de ce rayon de lumière n'est pas 300 000 km par seconde plus 60 km heure. C'est 300 000 km par seconde. C'est tout. Alors, dit comme ça, bon, ok. N'empêche que ça veut dire qu'on ne peut pas additionner les vitesses comme on le faisait avant. Et on a compris ça à la fin du 19e siècle. Et je peux vous dire que tous les physiciens se sont... casser la tête à essayer d'expliquer ça. On peut citer Lorentz, on peut citer Poincaré en France, et bien sûr on va citer Albert Einstein qui a trouvé la solution finale. Et la solution finale n'était pas évidente. La solution c'est que, en réalité, le temps ne s'écoule pas de la même façon quand on est au mouvement et quand on est à l'arrêt. Quand vous êtes à l'arrêt, comme je le suis, comme vous l'êtes, le temps s'écoule d'une certaine façon. Et quand vous êtes dans votre voiture à 60 km par heure, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Alors la différence, elle est infime. Mais elle va devenir importante quand on va très très vite. Donc c'est ça que Einstein a trouvé en 1905, a démontré. Le temps s'écoule différemment pour des observateurs en mouvement. Beaucoup de physiciens n'ont pas cru à cette théorie d'Einstein. Ça a été des discussions interminables. Et après, c'est arrivé sur la place publique grâce au physicien Paul Langevin. Vous connaissez le paradoxe de Langevin, je pense. Il a énoncé son paradoxe dans un congrès de philosophie à Bologne. Et il a pris cet exemple-là. C'est le paradoxe des jumeaux. Il a dit, voilà, il y a deux frères jumeaux, l'un part en fusée, faire un voyage, et l'autre reste sur Terre. Le voyage se fait à grande vitesse, ils ont 99,5% de la vitesse de la lumière. Dans sa fusée, le frère a emporté une horloge, et le voyage a duré un an. Il a vieilli de un an, sa peau a vieilli de un an, les horloges ont marqué un an. Eh bien, quand il revient sur Terre, son frère a vieilli de 10 ans, et les horloges ont marqué 10 années. Alors, vous imaginez, dans le congrès de philosophie, ça a été un tollé, c'est pas possible, ça a été des discussions sans fin sur la réalité, la possibilité de ça. Et on a eu la première preuve de l'exactitude du phénomène, de son authenticité, quand on a fait l'expérience vraiment, dans les années 50, alors pas sur des frères jumeaux, mais sur des particules qu'on appelle les muons, on s'est aperçu qu'un muon, quand il est au repos, se désintègre en 2 microsecondes, et quand il est en mouvement très rapide, et il se trouve que c'est justement 99,5% de la vitesse de la lumière, ça c'est un peu le hasard, eh bien il va se désintégrer non pas en 2 microsecondes, mais en 20 microsecondes. Donc pour ces muons, ces particules élémentaires, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse. Et on a été plus loin dans les années 70, on a mis des horloges atomiques à bord d'avions. Alors les avions, ça ne va pas très vite, mais quand même, bon, voilà, au bout d'un petit moment, eh bien on s'est aperçu qu'elles avaient un décalage, ces horloges atomiques, qui avaient voyagé avec les horloges atomiques qui étaient restées fixes sur Terre. Donc le temps ne s'écoule pas à la même vitesse selon qu'on est stable ou en mouvement. Mais Einstein ne s'est pas arrêté là. Oui, voilà, ça c'est ça. Einstein a démontré 10 ans plus tard, 1915, que le temps ne s'écoule pas non plus de la même façon selon le degré de gravité où on se trouve. Plus il y a de la gravité, plus le temps ralentit. C'est ainsi que si on allait au voisinage d'un trou noir, le temps finirait par ne plus s'écouler. Le temps s'écoule différemment selon la gravité. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas un temps, comme le pensait Newton, un temps absolu, qui s'écoulerait comme ça, de façon unique. Il y a autant de temps que d'observateurs en mouvement. Pour terminer, on approche de la fin, je voudrais vous citer quelques temps extrêmes. On va commencer par partir d'un temps qu'on connaît tous, c'est notre temps réflexe. Le temps réflexe qui est chiffré à peu près à 1/10 ou 1 seconde, un peu plus quand on, dans certaines circonstances, mais voilà. Pour aller vers un temps qui est un peu plus court, qu'on connaît bien aussi, c'est l'oscillation du diapason, hein, le LA 440 qui oscille en 2,3 millisecondes. Hein. Déjà, ça, on ne peut pas le compter. Effectivement, hein, c'est difficile. Je vous ai dit tout à l'heure que l'atome de césium, il oscillait en un 10 milliardième de seconde. Donc, c'est ultra bref. Eh bien, il existe des temps plus courts, comme par exemple la durée de vie de certaines particules élémentaires. Le boson W, c'est le plus court qu'on connaisse. Donc, c'est un... C'est difficile à dire, un 100 millionième de milliardième de seconde. Voilà. Mais vous me direz, mais on ne peut pas compter ça avec une horloge qui, elle, bat au 10 milliardième de seconde. Alors effectivement, ce n'est pas un temps qu'on mesure directement, c'est un temps qu'on calcule à partir de formules et de choses assez compliquées. Voilà. Une relation d'incertitude de Heisenberg, difficile à prononcer, dont on pourrait parler après. Voilà, on est capable en tout cas de calculer des temps comme ça, aussi brefs. Et puis on va aller maintenant vers un temps qui est le plus long qu'on puisse imaginer, qui est l'âge de l'univers, à l'origine de l'univers, ce qu'on appelle le Big Bang. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour calculer l'âge de l'univers? On prend les équations de la relativité générale, et puis on les inverse, et on trouve que tout converge vers un point initial qui s'appelle le Big Bang. Et notre système solaire, pour fixer les idées, est apparu 9 milliards d'années après le Big Bang. Vous savez tous que notre système solaire, c'est un résidu d'étoiles qui ont préalablement existé. Hein, et nous sommes des poussières d'étoiles. Toujours pour fixer les idées, la vie est apparue à peu près 10 milliards d'années après le Big Bang. Les végétaux terrestres 13,3 milliards d'années. Et puis nous, on est dans la petite flèche qui est là, tout au bout de la flèche, là, voilà, là, les hommes, on est là-dedans. Alors pour essayer de vous situer un petit peu mieux, parce que la flèche, effectivement, il faudrait l'agrandir, il faudrait zoomer énormément, je vous propose d'imaginer que toute l'histoire de l'univers, c'est un... donc voilà, on est à 13,7 milliards d'années. Toute l'histoire de l'univers, c'est un livre de 1000 pages. Et donc le Big Bang serait la première lettre de la première page de ce grand livre. Alors pour situer les idées, Homo sapiens, ce serait la dernière ligne du livre. Et nos 2000 ans d'histoire, la dernière lettre. Voilà, hein, pour situer notre l'homme qui se prend toujours pour des choses peut-être supérieures, qu'on est dans une petite goutte dans l'océan du temps. Et je vais terminer par une dernière énigme. Donc cette ligne représente l'histoire de l'univers, mais à ses tout débuts. Donc le Big Bang, il est là. Et on va considérer la première fraction de fraction de fraction de fraction de seconde, ce qu'on appelle l'ère de Planck. Vous voyez le nombre de zéros, hein. Et c'est quelque chose sur lequel travaille une foultitude de physiciens dans tous les pays du monde. Dans cette ère de Planck, eh bien, les quatre interactions que nous connaissons en physique, c'est-à-dire la gravitation, ce qui fait que les objets tombent, les radiations électromagnétiques, ce qui fait que la lumière existe, l'interaction forte, ce qui fait qu'il y a la cohésion des noyaux, et l'interaction faible, ce qui fait que... particule peut s'échanger en une autre. Ces quatre interactions existaient ensemble. Pourquoi ? Parce que l'univers était extraordinairement petit, condensé, donc la gravitation était énorme, et on est dans l'ère des particules élémentaires, où les trois autres interactions que j'ai citées sont très actives. Or, on n'est pas encore capable d'avoir une théorie physique qui décrive bien cette période-là. En fait, il y a deux théories qui tiennent la corde, j'allais le dire, la théorie des cordes, d'un côté, une théorie des Brahms avec ses différentes variantes, et une autre qui s'appelle la théorie de la gravitation quantique à boucle. Donc si les spécialistes veulent aller fouiller le sujet, c'est très intéressant. Je ne vais pas en parler ce soir, parce que c'est une autre conférence. Mais ce qui est curieux dans la deuxième théorie, c'est que l'équation qui décrit les phénomènes, qui s'appelle l'équation de Villard-De-Witt, il n'y a pas la variable temps dedans. Il n'y a pas la fameuse lettre T. Alors ça voudrait dire peut-être, certains physiciens ont pensé que... Alors ça voudrait dire que là, dans cette période qui est là, ici, le temps n'existait pas encore. Donc il y a eu beaucoup de discussions entre physiciens. Et le point de vue qui est maintenant, je dirais, le plus couramment admis, est le suivant. C'est simplement qu'on n'a pas besoin du temps pour décrire cette période. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de changement. Il y avait des changements. Il y a des changements dans cette période-là, des très gros changements. Mais simplement, on n'a pas besoin du mot « temps » pour les décrire. Et la boucle est bouclée avec le début de ce que je vous ai raconté, à savoir que le temps, c'est un concept fort utile dans notre vie quotidienne, mais dont on peut se passer éventuellement. Il me reste donc... trois petites choses à dire. La première, c'est que j'ai fait un abstract de tout ce que j'ai raconté, parce que j'ai conscience que c'était assez dense. Donc, si vous voulez avoir une trace écrite, voilà, c'est imprimé sur un sol A4, donc c'est minuscule. Il faut des loupes pour le lire, mais bon, ça a le mérite d'exister. Ce sera peut-être en ligne sur le site de l'université, je ne sais pas. Le texte, en tout cas, à ce moment-là, vous pourrez le télécharger, si vous voulez, qui reprend tout ce que j'ai raconté. Il me reste à remercier les organisateurs. Jean-François Brochec, merci. Monsieur Chambrelan, merci. Et puis, il me reste à vous remercier, vous, de votre attention et à vous souhaiter une bonne fin de soirée.